L'ouverture des marchés américains, c'est en direct et sous nos yeux, ça y est, le pop-corn est chaud là. Il saute dans le four ce pop-corn, il est là, je vous aperçois, John Plassard, Cité Gestion, bonjour John.
Bonjour Guillaume.
Mais oui, Antoine aussi, pour vivre de l'intérieur cette séance. Bonjour Antoine, rebonjour.
Mais bien le bonjour.
Mais re-bien le bonjour, parce que ce matin de 11h à midi, vous étiez là, tout pour investir, et je vois que vous êtes aussi présent désormais en podcast et replay. Vous étiez ici, à cette même place, et en même temps, maintenant, on peut vous retrouver ailleurs sur nos podcasts et replay en
c'est formidable, c'est la technologie moderne.
Partout.
Non, mais il y avait des trucs à écouter. Déjà, on vous a donné tous les bons conseils pour essayer de boucler vite fait votre déclaration d'impôt, si c'est pas fait. Hein, ouais. Je le rappelle, c'est 23h59 ce soir. Donc, oui. On avait Muriel Wimbert et on avait également Géraldine Métifeux qui nous ont donné tous les bons conseils. Puis nos amis de Carré Partners avec lesquels on a fait le point sur tous les produits qui sont émis en ce moment, qui sont censés vous permettre de miser sur les IPO de SpaceX, d'Anthropic, etc., qui sont en cours en ce moment, qui cote entre guillemets sur de drôles de marchés, crypto, fonds de produits. Bon, alors méfiez-vous un petit peu, triez le bon grain de livret, faites appel aux professionnels. Il y en a certains, oui, comme Carré Partners qui interviennent directement sur ces problématiques-là, mais qui sont agréés et avec des produits sûrs.
Entre autres, bien sûr, c'est à retrouver en podcast et replay. Donc, cette ouverture à Wall Street à l'instant, Antoine, ça donne quoi les trois indices américains aujourd'hui?
Cette ouverture à Wall Street, elle se fait avec une baisse assez marquée. Hein. Du côté du S&P 500, on est en train de perdre 0,28%. Le Dow Jones, moins 1,2% en ce moment. Et puis, du côté du Nasdaq, on est orienté à la baisse également. Alors que le CAC 40 lui-même gagne 1,2%. Rarement vu un tel écart de performance entre les marchés américains et les marchés européens.
Et pour une fois en faveur effectivement des marchés européens. John, avant de parler de Broadcom dans un instant et de sa publication, le marché de l'emploi américain, on a eu en début de semaine plutôt les signes de résilience de ce marché de l'emploi. Aujourd'hui, on a les nouveaux inscrits au chômage, les chiffres hebdomadaires des inscriptions.
Oui, tout à fait. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que déjà, c'est important pour la réserve fédérale américaine et puis aussi parce qu'on a les chiffres de l'emploi demain. On attend 4,3% de taux de chômage stable. Eh bien, là, les nouvelles inscriptions au chômage ont augmenté de 13 000 la semaine dernière. On revient aux niveaux les plus élevés depuis février dernier. Donc, ils nous signalent ces chiffres, mais ils sont très volatiles, hein, mais si on analyse les chiffres qui viennent de sortir, un refroidissement, je dirais un léger refroidissement du marché du travail américain, même si les licenciements restent historiquement faibles. On a quand même une bonne nouvelle, hein. On a les demandes continues d'allocation chômage qui ont reculé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? C'est que les personnes qui perdent leur emploi, elles continuent globalement à retrouver du travail. Donc, on est ici et on aura normalement la confirmation demain dans un marché de l'emploi américain qui reste toujours résilient, mais il n'affiche plus la vigueur exceptionnelle observée au cours des derniers trimestres. Mais c'était attendu, ce n'est pas réellement une surprise. Vous savez, on pariait sur ce soft landing, une croissance américaine qui tient, mais qui baisse légèrement avec un emploi qui se dégrade légèrement. C'est ce que nous dit d'ailleurs la réserve fédérale américaine.
John, il faut absolument qu'on parle du Bitcoin quand même, parce que depuis le début de la semaine, Antoine, vous insistez beaucoup dessus, le Bitcoin souffre. Ben alors aujourd'hui, on passe encore un cap supplémentaire à la baisse. On est à 63 500 $ aujourd'hui sur le Bitcoin. Que se passe-t-il sur la reine des cryptos?
Ouais, et même à 61 000 $ ce matin, ça a un peu rebondi par rapport au plus bas. Il faut rappeler qu'on est dans une phase de correction qu'on a déjà connue, hein, mais là, une phase de correction depuis plusieurs mois qui a un recul près de 50%. Je vous rappelle quand même qu'au plus haut, on était à 126 000 $. Et là, comme vous l'avez dit, on est aux alentours des 64 000 $. Alors, on a eu deux choses. La première des choses, c'est la surprise de la première vente de cette société d'investissement qui est gérée par Michael Saylor, qui s'appelle Strategy Inc., qui a toujours incarné la stratégie sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies « buy and never sell ». Acheter et ne jamais vendre les cryptos, eh bien là, ils ont vendu. Alors, pas énormément, hein, 2,5 millions de dollars. Ils ont quand même un portefeuille de près de 60 milliards de dollars. Vous me direz, c'est pas beaucoup, mais c'est le message qui est un peu inquiétant pour certains. La deuxième raison, ce sont les ETF sur le Bitcoin qui connaissent véritablement ce qu'on peut appeler une hémorragie de capitaux, puisque on a ces fonds cotés qui ont enregistré près de 4 milliards de dollars de sorties nettes net sur 12 séances consécutives, ce qui est évidemment un record. Et puis, aussi intéressant de voir avec la frénésie qu'on connaît, j'ai failli dire qu'on a connu, parce qu'on va parler de Broadcom après, mais là, avec cette frénésie qu'on connaît sur l'intelligence artificielle, on a l'impression, face au momentum baissier depuis quelques mois sur le Bitcoin et certaines crypto-monnaies, que vous avez des investisseurs qui se disent « je vais peut-être me diversifier, je vais peut-être aller vers des valeurs qui sont plus liées à l'intelligence artificielle », et c'est ce qui explique aussi la sortie. Mais ça ne veut bien évidemment pas dire que le Bitcoin est mort. Ça ne veut bien évidemment pas dire qu'on est dans une situation historique, parce qu'on rappelle que ce sont des cycles qu'on a connus sur le Bitcoin et à chaque fois, on a eu les mêmes rengaines. Mais ici, effectivement, à noter 61 000 ce matin.
Antoine ? Alors, à noter que Michael Saylor, avec ses ajustements très violents sur les cours du Bitcoin, on perd quand même plus de 10 000 dollars depuis le début de la semaine, ce qui n'est pas rien. On était du côté des 75 au début de cet épisode franchement très baissier. Michael Saylor, sur ses positions Bitcoin au niveau d'achat moyen des différentes vagues d'accumulation, est en perte de 15 milliards de dollars. Donc, il commence à avoir une position très largement négative. Et puis, au-delà de ce que dit John, c'est vrai qu'il a tout à fait raison. Question de se diversifier aussi. Certains investisseurs très longs sur le Bitcoin liquident des positions. Parce qu'il est aussi question de peut-être être à l'affût de l'IPO de SpaceX, l'IPO d'Anthropic, etc. Mmh. C'est une autre réserve de valeur là, qui subit des dégagements peut-être en faveur de ces futures introductions géantes.
Wall Street, avant SpaceX, a priori attendu le 12 juin prochain, donc vendredi de la semaine prochaine, très probablement. Wall Street est en petite baisse. Moins 0,8 le Nasdaq, moins 0,1 le S&P 500 et Broadcom, moins 15% cet après-midi. Broadcom a publié, franchement c'est magnifique, mais manifestement pas assez hallucinant au goût de Wall Street, John.
Ouais, tout à fait. Si je vous dis que le chiffre d'affaires a progressé de 48% sur un an à 22,2 milliards, que le bénéfice ajusté par action a atteint 2,44 dollars et que les revenus liés à l'intelligence artificielle ont bondi de 143% sur un an. Eh bien, si je vous dis ça, vous me dites, l'action est en progression. Ben non, vous l'avez dit, elle perd près de 15%. On a un problème, évidemment, qui vient pas des résultats, mais des attentes qui sont devenues totalement excessives, qu'on le veuille ou non. Vous avez quand même Broadcom qui prévoit 16 milliards de dollars de revenus sur l'intelligence artificielle au troisième trimestre, contre un consensus qui était logé entre 16,4 et 17,2 milliards de dollars. Mais aussi, et c'est là, c'est peut-être pour ça que la sanction est tellement élevée aujourd'hui, c'est que le marché espérait un relèvement des objectifs à long terme. Et Broadcom, le directeur général, a dit hier, on maintient notre objectif de 100 milliards de dollars, 100 milliards de dollars quand même, de vente de puces d'intelligence artificielle en 2027, mais il n'a pas relevé ses fameuses prévisions. Et donc, ce n'est pas des mauvaises nouvelles, mais c'est des nouvelles qui sont en dessous des attentes. Alors, on sait que les fondamentaux sont extrêmement importants, on sait que les fondamentaux sont extrêmement solides. On a entendu les discours du patron d'NVIDIA, du patron d'OpenAI, etc. Et surtout, évidemment, ce que ça nous met en avant, ce que ça illustre, évidemment, c'est le niveau d'exigence atteint par le marché de l'intelligence artificielle. Et tout petit manquement aux prévisions, pas aux chiffres, tout petit manquement aux prévisions, se solde par une sanction immédiate sur les marchés.
Oui, et ce titre est en baisse de 14% aujourd'hui. On a aussi une autre publication, cette fois dans la cybersécurité, CrowdStrike, et qui est sanctionnée également aujourd'hui, moins 0,9%. Résultat donc, on voit une rotation dans la tech, les valeurs qui ont flambé ces dernières semaines, notamment les semi-conducteurs, souffrent aujourd'hui, alors qu'à l'inverse, les logiciels sont de retour, et on a un rebond des logiciels aussi ici en Europe. Capgemini, Dassault Systèmes sont les deux plus fortes hausses du CAC cet après-midi entre
eux. Effectivement, il y a une forme de granularité qui est en train de s'établir sur le secteur de la tech, qui n'était pas forcément donnée il y a encore quelques mois. Tout montait un petit peu ensemble, mais premièrement, il y a eu ces épisodes de massacre sur le secteur des logiciels à grands coups de disruption d'IA. Et puis, deuxièmement, il y a un secteur des semi-conducteurs qui se détache totalement, qui devient un état dans l'état. Alors, normal que les marchés deviennent exigeants vis-à-vis de Broadcom. Est-ce que vous avez une idée du PE de Broadcom, du ratio sur bénéfice?
Doit être à plus de 50.
On est du côté des 80. Enfin. Oh. Donc, logique que les marchés deviennent archi exigeants et que sur certains points comptables, on démolisse le titre et on prenne quelques bénéfices.
Les tech qui restent extrêmement ambitieuses, bien sûr. Par exemple, on a appris qu'Alphabet n'allait pas lever 80 milliards de dollars à travers des actions. Non, c'est pas 80, c'est 85 milliards, parce que la demande est tellement énorme qu'ils se permettent d'annoncer une levée de fonds finalement supérieure à ce qui avait été initialement annoncé. 85 milliards Alphabet. Et quand on compare les tech chinoises, on se dit qu'ils sont en retard quand même, en tout cas en termes de financement. DeepSeek, de son côté, alors qu'Alphabet annonce lever 85 milliards de dollars, John, DeepSeek va lever 7 milliards et demi. Ça paraît tout petit à côté. Est-ce qu'ils ont des problèmes de financement, les acteurs chinois de la tech?
Non, pas du tout. Mais je veux juste rappeler une chose avant de vous répondre, Guillaume, c'est que si on regarde la performance des techs, vous savez, vous avez des ETF, des fonds chinois par rapport aux Américains, il y a aussi une divergence énorme avec une faiblesse de la tech en bourse chinoise par rapport aux Américaines. Mais pour revenir à votre question, il n'y a pas de problème de financement. Ici, on est dans un problème qui est différent parce que on sait que la Chine ne manque pas d'argent, la Chine ne manque pas de talents ni d'ingénieurs, mais elle dispose d'un accès extrêmement limité aux ressources stratégiques. Et lorsque je vous dis ressources stratégiques, évidemment, vous me dites, Guillaume, eh bien, les puces les plus performantes, notamment de Nvidia, les équipements de production les plus sophistiqués, etc., etc. Donc, on est dans un paradoxe où, d'un côté, on a les grandes entreprises de la tech américaine qui devraient investir environ 700 milliards de dollars pour les infrastructures d'intelligence artificielle en 2026, presque le double que 2025. Et de l'autre côté, eh bien, on est dans une situation où la Chine, on a l'impression, est en train de travailler sur la question de l'énergie. Ils sont beaucoup mieux positionnés sur l'énergie que les États-Unis. La Chine construit des centrales électriques, des réseaux et des capacités d'énergie à un rythme beaucoup plus supérieur, nettement supérieur aux États-Unis. Et on sait, bien évidemment, que pour faire tourner ces systèmes d'intelligence artificielle, eh bien, il faut de l'énergie. Donc aujourd'hui, si on n'a pas accès aux puces dont on parlait, eh bien, il faut travailler sur l'énergie. Et là, les Chinois ont un pas d'avance. Donc, sur le court terme, oui, mais sur le long terme, il faut se méfier parce que les Chinois aussi avancent et ils n'attendent pas qu'on leur laisse acheter des puces. Ils construisent leurs propres puces qui n'ont pas la capacité de Nvidia aujourd'hui, mais surtout, ils font tout pour avoir l'énergie pour faire tourner ces systèmes.
Oui, les Chinois manquent de puces avancées. En revanche, ils ont l'énergie et l'électricité. Les Américains, eux, risquent de manquer très vite d'électricité. Par contre, ils ont les puces les plus avancées. Dans quelques jours, SpaceX donc, va s'introduire en bourse et a priori, Jimmy Dimon, le patron de JP Morgan, va lui-même faire la promo de cette introduction de SpaceX, John.
Alors ça, c'est l'histoire la plus folle qui existe. On rappelle quand même Jimmy Dimon, le CEO de la plus grande banque américaine, JP Morgan, qui va lui-même faire la promotion de l'introduction en bourse. Alors là, c'est absolument fou. C'est extrêmement rare, voire jamais dans l'histoire de Wall Street, mais ça nous montre évidemment l'ampleur du caractère exceptionnel de l'opération. On en a déjà parlé et en plus, JP Morgan n'est pas le chef de file de l'IPO. Ils sont au deuxième niveau puisque c'est Goldman Sachs qui est chef de file de cet IPO. Donc, on sait, SpaceX cherche à lever 75 milliards de dollars. Ils n'auront absolument aucun problème là-dessus. Mais effectivement, le fait que Jimmy Dimon vienne, eh bien, c'est un signe assez fort. Mais il ne faudrait pas que le marché l'interprète comme quoi on n'arrive pas à vendre ce qu'on appelle du papier et qu'on a besoin d'un des hommes les plus puissants, voire en tout cas dans le domaine bancaire, pour pousser l'introduction en bourse de SpaceX.
John Plassard avec nous depuis Cité Gestion pour l'ouverture des marchés américains.